Quand j'ai dit à mon frère cette semaine que j'allais prêcher à l'église, sa première réaction à la vue de ma moustache et mes lunettes, ça a été de dire que les gens allaient potentiellement croire que j'allais enseigner la physique quantique. Je vous rassure, c'est pas ça. C'est pas mon objectif caché ce matin. Dans Actes au chapitre 10, le passage qu'on a considéré avant le temps de prière, le verset que le Seigneur m'a mis à cœur particulièrement de considérer avec vous pour commencer aujourd'hui, c'est Actes 10, le verset 28. Donc, on va lire le verset 28 de Actes 10, puis ensuite je vais prier, puis on va enchaîner. Donc, Actes 10, verset 28, tout le monde est là? Donc là, c'est Pierre qui parle à Corneille. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » On va prier. Éternel Dieu, on vient devant toi ce matin uniquement par ta grâce. Et Seigneur, je veux te prier que tu puisses nous toucher par ta parole, que tu saisisses nos cœurs, Seigneur, parce que c'est vrai que nous étions impurs. Et Éternel, si on est aujourd'hui assemblés devant ton trône, à considérer ta parole, c'est uniquement par ta grâce. Donc Seigneur, aide-nous à, ou apprends-nous comme tu l'as appris à Pierre, peut-être d'une façon différente, à considérer les gens autour de nous, à les regarder de l'œil que toi tu les regardes, selon ta sagesse. Et Seigneur, on te prie que tu puisses toucher nos cœurs par ton Saint-Esprit, que tu nous enseignes, éternel Dieu, ce matin. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Je vais commencer un peu direct, je vais aller droit au but. Le monde est corrompu, la création est déchue et tout le monde qui vit dans ce monde aussi. Bonne fin de journée, tout le monde. Alors, mais êtes-vous content que l'histoire ne se termine pas comme ça? Moi, je suis content que ce soit pas juste une fatalité comme ça, où le monde est corrompu, puis c'est tout, on est pris avec ça comme ça. On voit ici que, Pierre ici parle que Dieu lui a appris à ne pas voir aucun homme comme étant impur. Puis j'aimerais considérer ce matin la question de pureté versus impureté. Il y a une certaine dualité, si vous voulez, dans notre vision du monde ou dans nos vies en tant que chrétiens, par rapport à tout ça, une tension, si vous voulez, dans nos rapports mutuels entre chrétiens ou avec les non-chrétiens, par rapport à cet aspect-là de la pureté et de l'impureté. Premièrement, vous le savez comme moi, selon Romains 3, 10 à 12 ou plein d'autres versets, que selon qu'il est écrit dans Romains 3, versets 10 à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, ça a le mérite d'être clair. Par défaut, tout le monde est impur. Mais maintenant, on sait aussi que Dieu nous a lavés par son sang, versé pour nous sur la croix. Puis, on peut penser aussi à un verset comme dans 1 Pierre 1, au verset 22, que ça dit « Ayant purifié vos âmes, on est maintenant purs par votre obéissance à la vérité. » Puis ça dit qu'on a été régénérés par une semence qui est incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc l'Évangile, c'est ce que ça dit, ce passage-là. On a été purifiés par cet Évangile-là de Dieu. Donc, tous sont impurs, mais Dieu nous a purifiés par sa grâce, par son évangile. Et on est en relation maintenant avec toutes sortes de personnes, que ce soit des chrétiens, des gens du monde, etc. Et je vous pose la question, maintenant, comment est-ce que tu perçois les autres en général? Tes collègues de travail ou tes enfants, les gens autour de toi. Tu peux regarder ton voisin, pur ou impur? Pas obligé de répondre. Mais notre esprit porte un certain jugement par rapport aux gens qu'on voit ou qu'on côtoie, avec lesquels on est en relation. Et à cause de notre nature pécheresse, si vous voulez, à cause du péché, ça complexifie les choses rapidement. Parce que ça vient distorsionner notre façon de gérer cette tension-là dans nos relations les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, j'aimerais creuser avec vous un peu cette tension-là entre la pureté et l'impureté dans nos vies et poser quelques principes sur la façon qu'on devrait vivre cette pureté-là que Dieu nous impute. Premièrement, bon, ici, pour vous remettre en contexte, on a lu le chapitre au complet un peu plus tôt, mais le texte traite d'unité spirituelle dans l'Église, dans le fond. On voit que Dieu a ouvert la porte, comme on l'a mentionné, de l'Évangile aux païens, et c'était vraiment contre-intuitif. Si on peut prendre ça un peu pour acquis quand on regarde ça, Dieu ouvre la porte de l'Évangile aux païens, on connaît ça, puis on le vit, en fait, si ce n'était pas arrivé, on ne serait même pas à l'Église ici, assis en ce moment. Mais c'était vraiment majeur à ce moment-là, parce que toute sa vie, quelqu'un comme Pierre, comme ça, ou un juif, selon la coutume juive, il ne pouvait pas être en relation ou aller vers un païen, parce qu'il considérait comme étant impur. Donc, on parle ici d'une impureté cérémonielle, si vous voulez, selon la coutume juive, dans le fond, quelque chose qui était impur, allait souiller quelque chose qui était pur. Donc, ils prenaient leur distance, puis il y avait une barrière à ce moment-là entre juifs et païens. Et donc, ici, quand on voit dans la vision, au verset 9, Pierre monte sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il a eu faim, parce que la sixième heure, c'est autour de l'heure du dîner. Et il est tombé en extase. Il vit le ciel ouvert, verset 11, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. En parenthèse, les animaux purs et les animaux impurs, tout ensemble. Parce que là, Pierre a faim, puis selon la coutume juive, selon la loi aussi, les Juifs ne pouvaient que manger de ce qui était considéré vraiment pur, un animal pur, et non pas les animaux impurs. Mais là, il y a tout sur la nappe, et une voix au verset 13 lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre, sa réaction, on connaît Pierre selon sa nature, encore une fois, on l'a vu dernièrement avec Pasteur Roy, il est assez impulsif dans sa manière de répondre parfois, puis il répond instantanément à Dieu « Non, Seigneur! » Il s'obstine avec Dieu, « car je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, Dieu dans sa patience, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. » Donc, ça a été répété trois fois pour démontrer toute l'importance que ça avait, ça ici. Puis ce qu'on comprend, suite à ça, avec la façon dont Pierre communique avec Corneille, puis toute cette histoire-là, c'est que évidemment, il y avait la notion de ne pas... que maintenant, il pouvait manger n'importe quoi. N'importe quoi. Comprenez, de comestible. mais que il y avait aussi la notion que il pouvait aller vers les païens. Et puis ça avait une importance, ça a été répété trois fois ici. Et Pierre informe les gens à qui il s'adresse de ça. Il dit carrément vous savez, au verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. » Il leur dit, « Vous le savez, que normalement, je ne serais pas supposé d'être ici avec vous puis de vous parler. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Donc, il prend la peine de les informer de son changement de disposition, ou plutôt de l'œuvre que Dieu a fait, de l'œuvre que Dieu est en train de faire, de la grâce de Dieu. Là, vous vous dites peut-être, « Ouais, mais Gabriel, ou Gab pour les intimes, ou Monsieur Gabriel pour les enfants. » Tout cet aspect cérémoniel-là de l'impureté versus la pureté, mais ça n'a pas vraiment d'application pour nous. Autrement dit, c'est bien intéressant, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Bien, premièrement, comme je l'ai dit, si ça ne changeait pas grand-chose dans nos vies, on ne serait pas là si ce n'était pas arrivé. Okay? Fait que déjà là, c'est une grosse implication. Mais aussi dans le contexte, on parle d'unité de l'Église entre juifs et païens. Donc, on voyait que maintenant, l'Église, c'était les juifs et les païens ensemble, en unité. Puis les juifs, comme je l'ai dit, ils considéraient traditionnellement les païens comme étant impurs. C'est-à-dire comme ayant la capacité de les souiller, hein, selon l'aspect cérémoniel, les païens avaient la capacité de les souiller, de faire que Dieu ne les accepte plus, ne les considère plus comme étant agréables à lui. Puis aussi, les juifs étaient les détenteurs de la vérité, pas les autres. Il y avait cet aspect de « c'est nous qui avons la vérité, puis vous autres, vous ne devriez pas avoir accès à ça ». Une première application, une deuxième plutôt application qu'on pourrait faire là-dessus, est-ce que ça se pourrait que parfois, en tant que chrétien, on puisse être une entrave à l'unité dans l'Église en considérant peut-être d'autres chrétiens comme étant impurs, qui pourraient nous souiller, peut-être pas selon l'aspect cérémoniel typique juive, mais qui pourraient nous souiller que moi, j'ai la vérité, puis pas les autres, que les autres se trompent. Donc, dans notre façon de voir d'autres chrétiens. Et quand on se pense comme ça, plus pur qu'un autre, ben à ce moment-là, on engendre quoi? On engendre, ben, premièrement, c'est de l'orgueil, puis ça engendre la division. Ça peut engendrer toutes sortes de mauvais fruits. Mais, contrairement à ça, Dieu nous appelle à quoi? Dieu nous appelle à préserver l'unité. Dans Éphésiens, chapitre 4, la parole nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Et cette unité-là a toutes sortes d'implications, parce que ça continue en disant « Il y a un seul corps, un seul esprit. » Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, s'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous.
Amen.
Donc, et en plus de ça, on n'a aucune raison de se considérer comme étant plus pur que quelqu'un d'autre, parce que, comme je l'ai dit en commençant, tout le monde était impur. On est tous souillés par le péché. Puis si tu es considéré et traité comme étant pur aux yeux de Dieu aujourd'hui, c'est pas parce que tu as accompli quoi que ce soit de mieux que quelqu'un d'autre. C'est parce que Dieu t'a purifié. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Ou si on prend une autre image par rapport à la purification, les lépreux, à l'époque de Jésus, vous savez, les lépreux étaient considérés comme étant vraiment impurs, étaient rejetés de la société, mis à l'écart. Les gens étaient terrifiés par les lépreux. Et qu'est-ce que le lépreux a fait pour être purifié? Est-ce qu'il a accompli quelque chose de plus que quelqu'un d'autre? La seule chose que le lépreux ou que les lépreux ont fait pour être purifiés, Matthieu 8, 2 et 3, pour vous donner un exemple. Et voici un lépreux s'étant approché de Jésus, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main dans sa bonté, dans sa miséricorde, le toucha. Ce qui était incroyable et impensable, de toucher un lépreux, et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et il y a quelque chose d'important aussi à considérer dans cette image-là. Vous savez, comme je l'ai dit, selon l'aspect cérémoniel juif de l'impureté versus la pureté, ce qui est impur souille ce qui est pur. C'est tout le temps ça, dans le fond, la loi. Quand quelque chose d'impur entre en contact avec quelque chose de pur, qu'est-ce qui arrive? Ce qui était pur devient impur. Mais cette loi-là est contrecarrée par Jésus. Parce que lui était pur, allait vers des impurs, puis qu'est-ce qui arrivait quand Jésus entrait en contact avec l'impureté? La purification. Et c'est la seule fois qu'on... Je veux dire, ça n'arrive pas, c'est impossible. Ça va à l'encontre de cette loi-là juive. Donc c'est complètement contre-intuitif. Mais le Fils de Dieu ne peut pas être souillé. Donc, qu'est-ce que le lépreux a fait? Il s'est confié en Dieu pour sa purification. Donc, on peut dire pour le salut. Et c'est la même chose pour la sanctification, se confier en Dieu. On ne peut pas être glorifié par nos œuvres. Donc, j'aimerais aussi avancer que la notion de l'unité de l'Église spirituelle, c'est une conséquence de quelque chose d'encore plus grandiose, de notre unité avec Christ. On est un avec le Seigneur, donc on est un ensemble.
Amen.
Okay. C'est la seule raison pourquoi on est un ensemble. L'objet de notre unité, c'est Jésus-Christ. La raison pourquoi on est unis, c'est Jésus-Christ. Galates 3:28 nous dit à cet égard-là, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et là, il faut faire attention, il n'y a plus ni homme ni femme aujourd'hui, ça peut porter à confusion, mais on va reformuler. Autrement dit, ton identité, parce que c'est ça ici, là, ça parle de... On peut avoir une identité par rapport à notre nation, juif ou grec, par rapport à notre sexe, homme ou femme, ou notre statut dans la société, esclave ou libre. Ton identité repose en quoi? Ton identité, ce n'est plus d'être juif. Ton identité, ce n'est plus d'être grec, ce n'est pas d'être canadien ou d'être québécois, c'est pas ton habillement, c'est pas tes tatous ou peu importe ce que tu as sur toi, c'est pas d'être un homme, d'être un enfant ou d'être un baptiste ou un pentecôtiste ou d'être membre de l'EBSA. Ton identité ou ce qui fait que tu es qui tu es, l'essence même de ta personne, c'est Jésus.
Amen.
Et on est tous unis en lui.
Amen.
On est membres les uns les autres. Et est-ce que des membres du corps sont plus purs que d'autres? Spirituellement, non. Excusez-la. Ça, c'était par rapport à l'Église. D'avoir l'unité dans cette pureté-là. Maintenant, qu'en est-il de nos rapports avec des gens qui ne sont pas chrétiens, des non-chrétiens? On a avancé qu'on doit avoir l'unité dans cette pureté-là que Dieu nous donne. Maintenant, on doit avoir l'espérance de la pureté. L'espérance de la pureté. Un élément important qui est impliqué par rapport à cette tension-là entre la pureté et l'impureté dont j'ai fait mention, c'est beaucoup en rapport avec notre perception. Comment qu'on voit les non-chrétiens. Et pour vous donner une illustration, quelque chose de très personnel, puis une des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a mis à cœur ce verset-là et ce message, dans ma perception par rapport à mes enfants, par exemple. Parce que ben, les enfants, il y en a qui ne croient pas, qui sont non-chrétiens et tout ça. Puis, alors que tu as un de tes enfants qui pêche constamment puis qui refuse de se repentir, ce genre de choses-là, on peut finir par avoir, ou en tout cas, je vais parler au jeu parce que c'est mon illustration par rapport à ma situation. Je peux finir par avoir une disposition par rapport à mon enfant qui est une disposition malsaine de croire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de cette personne-là. De voir, de regarder, de percevoir mon enfant comme étant impur d'une façon malsaine où ce que je me dis, il n'y a rien à faire avec. Il est impur. Ça ne va jamais rien donner pour Dieu. Puis évidemment, c'est une façon ridicule ou même méchante d'agir avec un enfant ou avec n'importe qui, de toute façon. Mais de regarder une personne comme étant impure, comme si c'était une fatalité, quelque chose qui ne pourra jamais changer, ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas selon l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu. Et en passant, c'est vrai par rapport à nous-mêmes aussi. Alors qu'on pêche encore au quotidien, on peut se percevoir comme ça, se voir comme « je suis impur, il n'y a rien à faire avec moi », puis de se décourager, déprimer, puis de se caler nous-mêmes dans notre propre perception de nous-mêmes. Pierre nous dit dans un autre passage, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 17, « Honorez tout le monde ». Il est dans les absolus, on dirait, hein? Ici, il disait « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme étant souillé ou impur. » Puis là, ici, il dit « Honorer tout le monde. » Honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir un grand respect. D'avoir un grand respect pour quelqu'un. Honorer tout le monde. Il ne fait pas d'exception. Honorer tout le monde. Ou dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'amour? L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est quelque chose qui peut arriver aussi quand on n'est pas bien disposé par rapport à quelqu'un, qu'on la voit comme étant impure, qu'on a cette mauvaise perception-là. Même quand la personne fait quelque chose, puis que tu n'es même pas sûr si c'était correct ou non, ça va être quoi ta première pensée? Ça va être de dire, ben, il a sûrement fait le mal. Il a sûrement fait le mal parce que cette personne-là, de toute façon, c'est juste ça qu'elle peut faire. Elle fait tout le temps le mal. Et c'est pas l'avoir. Encore une fois, c'est pas d'avoir la bonne disposition. Puis c'est humiliant de se rendre compte de ça qu'on peut avoir cette disposition-là, particulièrement moi avec des enfants, par exemple. Mais n'importe qui peut avoir cette disposition-là par rapport à quelqu'un, ce n'est pas biblique. Maintenant, Philippiens 2, 3 nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je l'ai dit, on était tous impurs, puis notre péché, oui, a été pardonné, Dieu nous lave, Dieu nous purifie. Est-ce qu'on pêche encore? Oui. Si on est pur aux yeux de Dieu, c'est une grâce, comme je l'ai dit. Je ne suis pas mieux que personne, et vous non plus. Et quand on voit ce que Dieu a fait dans ma vie pour me sortir de mes ténèbres, et que je ne veux pas oser croire qu'il peut faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est de me voir comme étant mieux que l'autre. C'est de l'orgueil. C'est de sous-estimer Dieu aussi.
Amen. Ouais.
Et une citation, quelque chose qui a été écrit par un homme qui s'appelle Paul Schrader, et je vous la lis, ça dit: le désespoir, c'est le développement d'un orgueil qui est tellement grand qu'il choisit sa certitude plutôt que d'admettre que Dieu est plus créatif que nous le sommes. Je vais le répéter, le désespoir, donc le désespoir, quand on n'a plus d'espérance par rapport à une personne, qu'on se dit c'est impossible qu'il y ait quelque chose de bon qui peut sortir de cette personne-là, d'être désespéré ou par rapport à nous-mêmes, c'est qu'on a développé un orgueil qui est tellement grand qu'on choisit notre certitude de dire ben, c'est impossible, je suis certain de ça. On choisit notre certitude plutôt que d'admettre, entre parenthèses humblement, que Dieu est plus créatif que nous le sommes.
Amen.
Dieu pense à des solutions qu'on ne peut pas envisager. Ou autrement dit, Éphésiens 3, 20, 21 nous dit: or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Amen.
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Et pour revenir au verset que j'ai mentionné tout à l'heure de Philippiens 2, 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes, ça implique quoi? Ça implique aussi le désir de servir l'autre. Le désir de servir l'autre ou de lui faire du bien. Et donc, d'avoir l'humilité, c'est dans une situation comme celle-là, par exemple, où ce que, bon, il y a du péché, la personne... Hello! Dans une situation comme ça, non? Où ce que, bon, pour reprendre l'exemple, ton enfant pêche sans arrêt et tout ça, il n'y a pas nécessairement de repentance et tout ça, ça devrait être quoi ta disposition dans l'humilité? De le servir. Puis de le servir, ça implique quoi? C'est de désirer son bien puis de vouloir restaurer la situation, de vouloir faire une œuvre de restauration. Donc, Éphésiens 4, 32 nous dit: soyez bons les uns envers les autres, avoir de la bonté, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Amen.
La mesure de mon pardon, c'est comme Dieu nous a pardonné en Christ. Puis ça, encore une fois, c'est facile à lire puis à dire, mais quand quelqu'un commet quelque chose, un péché contre nous, puis qu'il refait, À un moment donné, le pardon, on dirait que humainement, il devient plus difficile. Puis on peut, même si on le dit, on peut dire « je te pardonne », mais on peut garder une certaine amertume dans notre cœur. Puis quand la personne refait encore la même chose, ben là, on peut devenir frustré. Mais non, Dieu nous dit qu'on doit pardonner selon la mesure du pardon qu'on a eu en Christ.
Amen.
C'est quoi la mesure du pardon qu'on a eu en Christ? Mais encore une fois, on l'a vu dernièrement. Dieu prend nos péchés et l'envoie complètement à l'opposé de sa présence. Il pense plus à ces choses. C'est loin de lui. C'est pas comme s'il mettait juste à côté et j'y pense plus, mais c'est juste là. Non, mais c'est vrai. C'est pas comme... Le pardon, c'est pas ça. C'est pas de dire, ben pour l'instant, t'es correct, mais si tu le refais, par exemple, je vais être encore plus fâché. C'est pas ça. C'est de, oui, ok, je vois que ce que tu fais, c'est pas bien, puis tu m'as demandé pardon, puis j'oublie pas nécessairement qu'est-ce que t'as fait, mais je mets plus ça en toi et moi, puis je remettrai plus ça en toi et moi. C'est à l'écart. Donc, on peut voir l'incarnation même de l'amour de Dieu en Jésus. Alors que lui, le seul qui était pur, prenait notre malédiction du péché sur la croix, on voit cet exemple-là, cette incarnation-là de ce que je viens de vous mentionner là, cette bonté, cette compassion, ce pardon-là, en Jésus. Il prenait notre malédiction sur la croix, notre impureté, ok? Puis on voit quand même sa disposition de cœur dans cette situation-là, lui qui était toujours doux et humble de cœur. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il a prié pour les autres, pour les impurs, si vous voulez. Puis il a restauré l'âme d'un brigand qui était à côté de lui. Alors, si je vous lis Luc, chapitre 23, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il était dans un environnement complètement hostile. C'est pas comme si les gens prenaient pitié de lui, de ce qui était en train d'arriver. Puis il priait pour le pardon de ces gens-là. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cette disposition de cœur-là de Jésus à travers cette épreuve, la plus grande épreuve de sa vie, alors qu'il subissait l'impureté de nos péchés, qui était quand même le Père qui l'abandonnait sur la croix, qui était quand même disposé à pardonner, à prier pour les gens auprès de lui. Donc, on doit avoir cette espérance-là à travers notre pureté, l'espérance de la pureté, de voir que Dieu peut rendre pur l'impur, que ce n'est pas une fatalité, puis d'avoir cette disposition-là, comme Christ, face aux gens autour de nous, de ne pas les percevoir de cette façon malsaine-là, comme étant impur à tout jamais. Et enfin, troisièmement, de désirer propager la pureté. Désirer propager la pureté. D'aller vers les gens du monde, prêcher l'évangile aux perdus, de jouer notre rôle aussi de sel de la terre pour empêcher la corruption de se propager, mais plutôt de rendre pur ce qui est impur comme Christ le faisait. Par la puissance de Dieu qui agit en nous. Et quand je dis d'aller vers les gens du monde, je vais prendre le temps de bien nuancer les choses. Si on regarde dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17, 2 Corinthiens 6, 14 à 17, ici on a l'apôtre Paul, qui parle aux Corinthiens, puis dans le contexte, on comprend qu'à Corinthe, dans l'Église, il y avait des faux enseignants. Des gens qui enseignaient, bon, des faux docteurs, des gens qui enseignaient des faux enseignements. Verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Voyez-vous la tension entre... Tout le monde est impur, on a été purifié par l'Évangile, on doit aller vers les impurs, ne pas considérer, comme je viens de le dire, les gens comme si c'était une fatalité qu'ils sont impurs, avoir cette perception malsaine-là, mais on a aussi un passage comme ça, ou d'autres, dans la parole de Dieu, qui nous appelle à quoi? À la séparation. Donc c'est pour ça que je dis, je veux prendre le temps de bien nuancer les choses, parce que les deux dans la parole de Dieu. C'est pas comme si on devait se garrocher vers le monde, puis de pas être vigilant, de pas avoir de discernement, puis juste... y aller comme ça, à la voix comme je te pousse, sans faire attention, sans sagesse. On est appelé à se séparer de toute forme de fausse religion, de pratique idolâtre, comme on le voit dans ce passage-là, de forme de mal, ou comme Éphésiens 5, 11 le dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » On est appelé à condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc oui, on doit faire preuve de vigilance, de discernement, selon la sagesse de Dieu, pour appliquer ce principe important là, de séparation chrétienne. Mais maintenant, de l'autre côté, et c'est là que la question d'avoir la bonne perspective est importante, et pourquoi je dis qu'il y a cette tension-là, c'est qu'il y a un grand piège quand on regarde des gens comme étant impurs, de les trouver répugnants ou repoussants jusqu'à un certain point. Comme les Juifs considéraient les païens. Puis ça allait quand même loin, parce qu'on voit dans la parole de Dieu comment les Juifs considéraient les païens, ils les considéraient comme des animaux, carrément, là, des chiens, des moins que rien. D'avoir une pensée comme, ben moi, je suis chrétien, puis de la bonne sorte à part de ça, puis si t'es pas chrétien, ou que t'es de la mauvaise sorte, ben je veux même pas m'approcher de toi, parce que non seulement je pourrais être souillé, mais en plus quelqu'un pourrait me voir avec toi. Évidemment qu'on... En tout cas, j'espère qu'on ne pense pas des mots comme ça, des pensées comme ça, mais on peut avoir une disposition qui reflète une pensée comme ça. Mais à qui ça fait penser, une pensée de ce genre-là? Marc chapitre 2, verset 16, « Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, parlant de Jésus, ils voyaient Jésus manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Puis on comprend, selon le contexte, que bon, c'est pas juste une question par curiosité. Il y avait un blâme en arrière de ça. Pourquoi est-ce qu'il mange et qu'il boit avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Entre parenthèses, il ne devrait pas faire ça, il devrait savoir mieux. Même si ça ne se dit pas en français, je pense, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que Jésus, notre maître, on est chrétien, notre maître, qu'est-ce qu'il faisait? Pour vous donner une autre illustration, quand j'habitais à Sainte-Foy, il y avait un restaurant Subway pas loin de chez moi, puis il y avait un sans-abri qui était souvent pas loin, en train de quêter de l'argent, puis il était à une intersection aux lumières, puis il demandait aux gens dans les voitures de l'argent. Puis souvent, il était, on voyait qu'il était... Il était sous l'influence de l'alcool. Puis à un moment donné, en revenant de l'église, j'allais me chercher un souper au Subway. Puis le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur d'aller lui parler à cet homme-là. Puis Dieu a permis, par la suite, que je le recroise à quelques reprises. Puis à un moment donné, même, je me suis assis avec lui. Puis à chaque fois que j'allais le voir comme ça, Dieu me poussait à lui donner à manger, puis à discuter, à parler avec lui de sa situation, de tout et de rien, il me racontait toutes sortes de choses. Mais aussi, on a pu parler longuement de l'Évangile. Puis les gens passaient, puis sûrement que les gens qui passaient ici souvent savaient c'était qui cet homme-là, il était souvent là. Puis peut-être qu'il y en a qui pensaient que j'étais son grand chum ou un autre sans-abri alcoolique. Peu importe. Mais je dis pas ça pour... Je dis pas ça parce que je suis donc bien une bonne personne, puis que... C'est loin de moi l'idée de vouloir me glorifier de mes œuvres, de ce que j'ai fait. Comprenez-vous? C'est, je me glorifie de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce qui m'a mis à cœur de faire ça, puis qui a fait cette œuvre-là à travers moi. Parce que c'est Dieu qui a fait ça, puis c'est ça que Dieu fait. C'est ça que Jésus faisait. Il allait vers les malades, il allait vers les gens de mauvaise vie, il allait vers les débauchés, vers les rejetés de la société, tout ce qui était le plus impur aux yeux du monde, aux yeux des gens de l'époque, il allait vers ces gens-là pour opérer son œuvre de purification. Et vous voyez, il y a une différence majeure entre participer aux œuvres, prendre part aux œuvres des ténèbres, versus aller vers les autres pour les servir, pour leur faire du bien, pour faire cette œuvre de restauration, de purification-là, pour leur partager l'Évangile, etc. Et Jésus avait en basse estime l'opinion que les autres avaient de lui et avait en très haute estime l'opinion que le Père avait de lui. Ou autrement dit, il n'avait pas peur de, en québécois, scraper son témoignage face aux hommes en mangeant avec ces gens-là. Parce que comme il l'a dit, notre Seigneur, dans la parole, on voit, il dit « Mon Père rend témoignage de moi. J'ai pas besoin de suivre toutes les coutumes juives, les traditions d'hommes par crainte des hommes. » Parce que le témoignage de Christ, c'est celui de l'amour du Père, de la gloire de Dieu, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa compassion envers les impurs. S'il n'était pas allé vers les impurs, justement, puis qu'au contraire, il avait eu cette crainte des hommes, ce désir de vouloir bien paraître ou de paraître pur aux yeux des hommes, il n'aurait pas accompli la volonté du Père. Il n'aurait pas fait l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Marc 2, 17, « Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc oui, on ne veut pas s'associer de façon malsaine à des non-chrétiens, pour reprendre les mots de Paul, à des infidèles, selon le passage qu'on a lu dans 2 Corinthiens. Mais on ne veut pas être froid, inaccessible, puis créer une barrière, peu importe avec quel type de personne. Parce que dans le contexte d'Acte 10, notre passage d'introduction, il y aurait eu une conséquence majeure et importante si Pierre aussi avait refusé d'aller vers ceux qu'il avait toujours considérés comme étant impurs. Dieu a utilisé cet homme-là qui avait toujours considéré les païens comme étant impurs pour aller vers eux, pour ouvrir cette porte-là, pour amener l'Évangile aux païens. Imaginez s'il n'avait pas obéi puis avancé selon ce que le Seigneur lui montrait. Puis c'est la même chose pour nous. On doit être simplement à l'écoute de ce que le Seigneur nous montre, puis pas avoir peur d'aller vers les gens comme ça, de mauvaise vie, comme le Seigneur le faisait. Il n'y avait pas la recherche de la perfection puis de la pureté selon les hommes, mais le Seigneur Jésus portait le témoignage du Père qui a les bras ouverts, qui est accessible. Pas du saint inaccessible avec une barrière entre lui et les gens, parce que, oui, justement, Dieu, dans sa sainteté, c'est le seul qui est pur. Puis oui, il y avait cette barrière-là impénétrable entre Dieu, le pur, et nous, les impurs. Cette barrière-là était là, mais Jésus, pourquoi il était là? Il était venu pour briser cette barrière-là. Pour enlever cette barrière-là et restaurer la relation entre Dieu et les hommes. 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Puis continue au verset 20 en disant « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. »
Amen.
C'est le message qu'on doit porter. Qu'on doit porter entre nous, qu'on doit porter dans le monde, dans les ténèbres du monde vers des gens qui ne connaissent pas Dieu, on doit avoir ce désir profond de propager la pureté. Donc, pour conclure ce matin, comment vivre cette tension entre pureté et impureté dans nos vies en tant que chrétiens? On a vu d'abord qu'on doit avoir l'unité spirituelle en Église, avec un grand E, parce qu'on est tous un en Christ. On est tous un en Christ, et chaque membre a sa place, puis il n'y en a pas un qui est plus pur que l'autre. On doit avoir l'espérance de la pureté dans notre façon de voir et de percevoir les autres. Dieu peut sauver n'importe qui. Dieu sauve encore le pécheur.
Amen.
Et si tu ne crois pas en ce sauveur qui a pris ton péché, ton impureté, tu ne peux pas devenir pur par toi-même. C'est impossible. Le moindre petit péché dans ta vie te sépare de Dieu parce que Dieu est saint. Chaque petit péché, il ne peut pas le tolérer en sa présence. Mais le Seigneur Jésus est venu pour que Dieu puisse te voir comme étant pur. Lui qui était pur, qui a pris ton impureté sur la croix, il a ouvert cette porte-là, il a enlevé la barrière. Et la seule chose que tu as à faire comme le lépreux pour être purifié, c'est d'aller à lui.
Amen.
Va à Christ, c'est la seule chose que tu as à faire. Et Dieu va te sauver et te voir à travers son Fils. On doit avoir, troisièmement, ce désir ardent de propager la pureté, d'être un agent actif entre les mains de Dieu pour rendre pur ce qui est impur en allant vers l'impureté. Et oui, ça peut impliquer d'aller s'asseoir, d'aller manger avec des gens de mauvaise vie comme Jésus. On ne doit pas avoir cette crainte-là. On est appelé à suivre les traces de notre Maître. Donc, marchons dans ces traces. On va prier. Seigneur Dieu, que toute la gloire te revienne. Parce que Seigneur, on dépend entièrement de ta grâce. C'est toi qui accomplis tout. On ne peut pas se glorifier de nos œuvres, mais on peut se glorifier de toi, Seigneur Dieu, parce que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur que les choses ne dépendent pas de nous, parce que nous, on est faillibles. Et même si on est rempli de bonnes intentions, notre péché vient gâcher constamment les choses. Mais Seigneur, toi, tu es fidèle, tu es bon et compatissant. Tu es doux et humble de cœur, Seigneur. Tu te rends accessible à nous, toi qui es trois fois saint. Seigneur, touche nos cœurs par ça, puis qu'on puisse être attiré à toi face à ton amour inconditionnel. Parce qu'on ne peut pas mériter ton amour, Seigneur Dieu. Tu nous aimes toujours de la même manière, hier, aujourd'hui et demain. Et Seigneur, on a juste à fléchir le genou et tomber sur notre face devant toi. Et Seigneur, quand on fait ça, dans l'humilité, tu vas nous prendre, tu vas nous purifier, tu vas nous utiliser, tu vas nous faire accomplir de grandes choses, grandes et cachées qu'on ne connaît pas, pour ton royaume, pour ton œuvre. Seigneur, que ce soit notre désir profond en tant qu'Église, d'être une lumière dans ce monde, et qu'on puisse repartir d'ici, Seigneur Dieu, encore plus près de toi, avec une hardiesse pour partager l'Évangile que tu nous as donné parce qu'on est tes ambassadeurs, Seigneur Dieu. Merci pour ça. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Amen.
Amen.
Amen. Vous pouvez prier selon ce que l'Esprit vous met à cœur.